Donc bilan de compétences. Bon, il n'y a pas réellement une question, hein. Il y a le terme bilan de compétences. Donc bilan de compétences, c'est ce que rejoint l'introduction de Rémi lorsqu'il a parlé de constat, de bilan par rapport à ce que vous avez fait. Donc, par rapport à une recherche d'emploi, il est important, à un moment donné, avant d'y aller, de faire un point par rapport à vous. Donc là, vous avez eu un premier parcours avec une partie formation, une partie expérience professionnelle. Prenez le temps, si possible en étant accompagné par quelqu'un qui a l'habitude de faire ce travail de bilan, de faire un premier travail de bilan type audit pour bien lister, bien mettre en avant vos acquis, compétences, savoir-faire, savoir-être, etc. C'est-à-dire c'est une photographie de vous au niveau professionnel à la date d'aujourd'hui. À partir de ce travail-là, vous pourrez mieux définir des axes professionnels, des projets professionnels, d'accord ? Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. L'objectif étant qu'il soit réaliste dans le sens réalisable, c'est-à-dire qu'en tenant compte de vos contraintes et des contraintes du bassin d'emploi sur lequel vous êtes, si vous n'êtes pas ou peu mobile. Et donc c'est un travail de bilan de compétences qui vous permet de faire ça. Et il est important de faire ce travail avant de démarrer votre recherche d'emploi. Parce que du coup, vous aurez bien défini vos axes professionnels, votre projet professionnel avec un, deux ou trois axes. Pour chaque axe, vous aurez les outils qui vont avec et le positionnement que vous aurez pour chaque axe. C'est-à-dire pour l'axe numéro un, vous allez mettre en avant telle et telle compétence qui seront peut-être pas les mêmes que pour l'axe numéro 2. D'accord ? Et il faut être au clair. Souvent, les jeunes chercheurs, vous avez des difficultés à identifier vos compétences. Et déjà, à mettre un terme sur des compétences. C'est souvent plus un problème de vocabulaire et qu'autre chose. Autant vous savez très facilement présenter vos travaux de recherche. Et souvent, comme vous êtes passionné par ce que vous avez fait, vous n'arrêtez plus. Autant, lorsqu'on vous demande de parler de vos compétences, c'est plus difficile. Donc, le travail de bilan de compétences va vous aider aussi à bien identifier les compétences acquises, les savoir-faire, les savoir-être, à pas faire un mélange dans tout ça, parce que spontanément, tout le monde mélange. Vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à vous. Ce qui est important, c'est que vous soyez au clair, j'ai envie de dire, avec vous par rapport à votre projet professionnel. Vous allez vous vendre, vous, pas le voisin. Et ce travail de bilan de compétences va vous aider à aller un petit peu plus loin que faire un premier listage de type compétences transverses, travail d'analyse, synthèse. Là, on va le retrouver chez tous les chercheurs. Il faut aller au-delà. Quelle est votre spécificité à vous ? Qu'est-ce que vous visez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Dans quel type de structure vous voulez travailler, etc. etc. Et un bilan de compétences, vous pouvez en faire plusieurs dans votre parcours professionnel. Parce que votre projet professionnel va bouger en 40 ans de carrière professionnelle. Et le bilan que vous faites aujourd'hui ne sera pas le même dans 10 ans. Ça se périme. Parce que vous avancez, tout le monde avance dans son parcours professionnel et à un moment donné, on prend des virages plus ou moins importants. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, et si vous n'avez pas fait un travail de bilan un petit peu approfondi, vous allez avoir des outils à un positionnement banal, j'ai envie de dire. Et par rapport à la concurrence qu'il y a aujourd'hui, une candidature banale, vous n'arrivez pas à l'entretien. Les outils, la candidature, l'objectif de la candidature, donc CV, lettre de motivation, c'est d'obtenir un entretien. D'accord ? Donc si vous ne sortez pas du lot, si vous faites des outils très bien mis en page, très propres, etc., clean, où il y a tout parfait, mais il faut sortir du lot. Il faut qu'on vous remarque. Il faut l'accompagner aussi.
La seconde question que posait cette personne a été plus par rapport à des sites. Sur quel genre de site on pouvait trouver les offres d'emploi ? sur des offres d'emploi scientifiques pouvant susceptibles de vous intéresser. Donc là, c'est quand même très large comme question. Je me dis, des annonces, vous en trouvez forcément sur le site de Pôle emploi, vous en trouvez forcément sur le site de l'APEC, et plus spécifique par rapport au docteur. Donc je pense que vous connaissez le site de IntelliAgence, qui est le nouveau nom de l'association Bernard Grégory, voilà, qui est vraiment sur la spécificité de fonction de recherche pour des jeunes docteurs.
Aujourd'hui, une recherche d'emploi effectuée uniquement en répondant aux offres d'emploi, vous passez à côté de 60% des postes vacants, d'au moins 60% des postes vacants. Je ne connais pas une entreprise qui, d'entrée, écarte 60% de son marché, de ses clients. Hein ? Donc, voilà. Et alors, comment aller chercher les 60% non affichés ? C'est le fameux marché caché, quelque chose d'assez obscur pour tout le monde. Il faut travailler sur du contact direct avec des entreprises. C'est le développement de votre réseau, c'est participation à des colloques, participation à des rencontres docteurs entreprises le 20 juin prochain. C'est être sur le terrain, être au contact. Alors commencez, vous avez un propre réseau, hein, déjà par votre première expérience professionnelle, par votre réseau famille-ami, il y a forcément des personnes qui travaillent en entreprise, pas forcément dans des secteurs qui vous intéressent, mais sollicitez en premier des gens que vous connaissez pour leur faire parler de l'entreprise, parce que comme vous avez des difficultés à identifier vos compétences, vous avez aussi des difficultés à comprendre ce qu'est une entreprise et à connaître le monde de l'entreprise, parce que vous n'avez généralement, sauf si vous avez fait un diplôme d'ingénieur avant, mais généralement vous n'avez eu quasiment aucun contact avec une entreprise privée. Donc c'est vrai que là vous avez un travail particulier, vous jeune chercheur, à faire pour aller chasser ce marché caché, et il faut vous forcer à aller vers l'entreprise et à mieux comprendre ce qu'est une entreprise, sachant que l'entreprise n'est pas un monstre... Et la bête à abattre, comme on a pu vous le laisser entendre, peut-être, ou peut-être pas, de moins en moins, heureusement. Mais voilà.
C'est vrai que ce thème reprend donc l'interrogation de l'une d'entre vous, qui demandait comment se tenir au mieux informé du marché de l'emploi que l'on convoite, comment organiser sa veille stratégique. C'est vraiment tout au long de votre thèse où vous devez faire effectivement cette veille active, tisser des relations avec des acteurs qui seront peut-être les employeurs demain, en tout cas dans le secteur d'activité. Je prends effectivement l'exemple Clotilde, qui travaille sur les associations caritatives, effectivement sur l'audit de ces associations. C'est évident qu'elle a, dans les actions qu'elle peut mener aujourd'hui, ce n'est pas de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée. Donc elle peut avoir des cas concrets, rencontrer effectivement des acteurs, et c'est forcément intéressant pour eux ce que vous allez leur apporter demain, par la vision plus globale que vous pourrez leur donner, ou effectivement leur apporter des réponses pour demain, pour les aider à conduire la gestion de leurs associations. À travers tout le tissu de relations que vous allez tisser avec toutes ces associations demain, vous allez vous faire connaître, reconnaître, intégrer un milieu, et ça fera partie de la veille que vous êtes en train de mener aujourd'hui.
Et certainement identifier des cabinets comptables qui travaillent pour ces associations, et à mon avis... il y a votre futur employeur dedans.
Ce qui est arrivé pour moi, parce qu'il y a un effet boule de neige dans le réseau, donc on vous connaît, on parle de vous, on vous donne des contacts. Bon, ça vient de se passer pour moi. J'ai effectivement un cabinet d'expertise comptable, bon, qui ne travaille pas avec des associations, mais qui a eu mes coordonnées par le président d'une association. Donc ça fait boule de neige et on parle effectivement de vous, des doctorants. Donc il ne faut pas hésiter à se valoriser, même si on ne connaît pas bien la personne, et à nouer justement, à créer son réseau.
Et du coup, je rebondis, il y a une personne qui a parlé des cartes de visite. Très bel outil, la carte de visite. Hein, et c'est un outil utilisé par les professionnels. Donc une carte de visite peut dire que vous positionnez de professionnel à professionnel. D'accord ? Et lorsque vous donnez une carte de visite, qu'est-ce qui se passe ? On vous en donne une en échange. Du coup, vous avez le mail de la personne, certainement la ligne directe, enfin, vous avez tout. D'accord. Mais c'est surtout le positionnement de professionnel à professionnel. Donc la carte de visite est un très très bel outil à avoir sur vous. N'hésitez pas à en faire. Ça, franchement, ce n'est pas un investissement financier très lourd. Et c'est un bon investissement, c'est un bon support. Il faut en avoir sur soi et à toute occasion faire les échanges. Alors il ne suffit pas d'échanger, il faut aussi convenir que vous allez rappeler ou envoyer un mail le lendemain pour arrêter un rendez-vous conseil la semaine suivante. Hein, parce que le réseau, ça passe beaucoup par des rendez-vous, j'ai envie de dire, informels, hors recrutement. D'accord ? Donc on est plus sur du rendez-vous conseil que sur de l'entretien de recrutement. Donc n'utilisez pas, ne sollicitez pas un entretien parce qu'on va vous dire malheureusement je recherche personne, merci, au revoir. C'est pas ce qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller plus loin dans l'échange. D'accord ? Pour mieux connaître l'entreprise, mieux connaître l'interlocuteur, mieux connaître leur mission, comprendre qui ils sont et au passage vous faire connaître. Hein. Donc la carte de visite, très bel outil. Si vous allez à des colloques, échanges professionnels, etc., vous n'allez pas donner votre CV. La personne qui va le recevoir, c'est encombrant, elle ne va pas savoir quoi en faire. Donc à mon avis, ça va finir soit sur la table parce qu'on l'aura un peu oublié, soit direct à la première poubelle, etc. Une carte de visite, on la glisse dans la poche et on retombe dessus à un moment donné. Hein, c'est un très bel outil. Alors que mettre dessus ? Votre nom, bien évidemment, téléphone, mail, pas forcément besoin, à mon avis, de l'adresse postale. Après, à vous de voir si vous mettez une indication quant à votre spécialité ou discipline. Moi, j'ai tendance à dire ne mettez rien. Vous êtes toujours à temps, en même temps que vous sortez la carte de visite, de sortir un stylo et de rajouter... neurobiologiste ou juriste droit international ou pour que la personne hop, vous identifie. Mais du coup, ça vous laisse la liberté de mettre ce que vous voulez en termes de spécialité, de termes pour que la personne vous identifie. Mais c'est un très, très, très bel outil, la carte de visite. Et ça vous met aussi dans la posture, même physiquement. Ça va vous donner de l'assurance, ça va vous... C'est vraiment un très bel outil.